Et nous allons regarder ce matin, en refaisant la lecture initiale de notre méditation, autour du thème « Les conditionnels divins », nous allons regarder le psaume 127, qui fait partie des psaumes dits des degrés, dont le premier commence par le psaume 120, où l'expression du psalmiste David est celle-ci: dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Donc cela veut dire que ça commence par la détresse, et le dernier psaume dit des degrés, c'est le psaume 134, où nous le voyons se livrer à la louange. Donc, si nous résumons, l'ensemble des psaumes des degrés commence par la détresse et finit par l'allégresse. Cela veut dire que dans la vie chrétienne, il y a des moments où on peut être joyeux, heureux, mais il peut arriver aussi qu'il y ait des moments moins glorieux, confrontés à certaines difficultés, en face de certains soucis, certains problèmes, certains combats à livrer. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons besoin que le Saint-Esprit qui habite en nous nous exhorte, nous fortifie, nous encourage, nous soutient, nous soulage, nous relève. Et je puis vous dire ce matin que le Saint-Esprit que Dieu a fait habiter en nous, il possède tous les attributs divins et sait agir selon ce que Dieu veut nous communiquer dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pensées, et quelquefois, il tranquillise notre esprit. Quelquefois, malgré ce à quoi on est confronté, on ressent l'intérieur de son cœur, non pas un grand trouble, mais une grande paix. Cela veut dire que c'est comme si Dieu voulait susciter à l'oreille de nos cœurs: ne t'inquiète pas, je m'en occupe. J'ai la situation bien en main. Écoutez, pendant que je vous dis ça, il y a une image qui vient devant mes yeux. Dieu sort son peuple d'Israël de 430 ans d'esclavage, la servitude d'Égypte. Mais il le sort à main forte et à bras étendus. Car le temps est arrivé où il veut, au travers de cela, non seulement glorifier son nom en Égypte, mais il fait rayonner sa gloire dans le monde entier. Et voici que, après être sorti d'Égypte, le peuple, arrivé aux abords de la mer Rouge, se retrouve dans une grande confusion. Vous savez ce que Dieu dit à Moïse? Pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Vous savez ce qu'il ajoute après? Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Autant il y a bien les Égyptiens qui sont là, pressés par une armée sanguinaire, une mer infranchissable devant eux, et Dieu dit maintenant, pourquoi ce tumulte? C'est-à-dire que Dieu ne considère pas les choses comme nous les considérons. Devant une telle situation, je comprends ce soit l'armée qui a poussé des cris. C'est logique, c'est humain. Mais Dieu, lorsqu'il agit, il nous sort de ce qui est humain, des contingences humaines, et ouvre nos yeux sur l'invisible. Alors, il va dire à Moïse, prends ta verge. Lève-la sur la mer et fends-la. « Alors, je vous pose la question, est-ce que Moïse a obéi? Oui, il a obéi. Et la mer est restée? Non. La mer s'est fendue en deux. Vous avez déjà vu ça, vous? Eh bien, Dieu, lui, il est capable de fendre une mer en deux. Mais ce Dieu-là, ce matin, il est au milieu de nous. Non seulement il est au milieu de nous, mais il est notre Père. Alors voilà ce que le psaume 127 nous rappelle comme quelque chose d'important aux yeux de Dieu et qu'il veut nous amener à considérer dans sa présence. C'est le conditionnel qui ouvre la lecture du psaume 127, verset 1er. Cantique des degrés, et nous voyons mentionner Cantique des degrés de Salomon. Donc David n'en est pas l'auteur. Cantique des degrés de Salomon, n'est-ce pas? Et quand je vous dis de Salomon, tout à l'heure, parce que nous allons rentrer dans la méditation, je vais vous amener à comprendre pourquoi. Si l'Éternel le bâtit la maison, dites avec moi, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la bâtit, qui la garde, pardon, celui qui la garde veille en vain. Et puis voici qu'il est amené à s'adresser à autant ceux qui bâtissent et à celui qui veille. En vain vous levez-vous de bon matin, vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. C'est quand même particulier. Se lever de bon matin, se coucher tard, et malgré tout, on mange le pain de douleur. Oh non, on peut manger un pain qui fasse du bien, pas moi, un pain particulier. Ce serait un peu, comment dirais-je, le fruit de notre travail. Maintenant, nous voyons qu'il mentionne, et mangez-vous, vous mangez le pain de douleur. Et puis là, ce qui est important pour nous ce matin, regardez la conclusion, la fin du verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant l'heure. Alléluia. Ça veut dire que pendant que moi je dors, je reprends un peu de force sur le plan physique. Alors Dieu est en train de s'occuper de mes affaires. Mais quand je dis mes affaires, c'est plutôt plus ses affaires dans ma vie. Il en donne autant à ses bien-aimés. Alors, tout à l'heure, je viens de vous dire, frères et sœurs en Christ, que ce psaume a été écrit par Salomon. Et vous qui connaissez un petit peu la vie de Salomon, vous savez qu'il a succédé à David. Et le temps venu où il va prendre la place de son père David sur le trône d'Israël, pour diriger le royaume, eh bien, Dieu va lui dire maintenant, demande ce que tu veux que je te donne. Et c'est un fait rare que ce soit Dieu qui dise à un homme de demander ce qu'il veut que Dieu lui donne. Alors, je vous pose la question ce matin, si Dieu vous disait, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Je sais que certains d'entre nous constituerait une grande liste. Et puisque c'est Dieu qui dit de demander, alors moi, Seigneur, je demanderai des biens matériels, de l'argent, des richesses, une belle maison, des propriétés, enfin, tout ce qui va satisfaire mon ego ici-bas. Mais Salomon, lui, dans ce qu'il avait compris de la part de celui qui lui disait de demander ce qu'il veut que Dieu lui donne, vous savez comment, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé par remercier Dieu de ce qu'il avait fait au travers David, son père. Tu as traité avec une grande bienveillance David, mon père, parce qu'il marchait de tout son cœur en ta présence. Et pourtant, la vie de David n'a pas été une vie toujours glorieuse, mais Quand c'est Dieu qui dirige la vie d'un homme, c'est pas la peine qu'on lui raconte maintenant les défauts, les torts et tout ce que nous aurions fait qui n'a pas été glorieux à ses yeux. Mais lui, il amène l'essentiel. Parce qu'il sait que dans la vie de son père David, mais constamment, il y a une chose qui a été, fort souvent en évidence, c'est la providence divine. Ce soit du fait que Dieu l'ait choisi, sa naissance et tout le reste, son entrée dans le service pour Dieu, tout ce qui a été, constamment, la providence divine a été active dans la vie de cet homme. Soit protégé, gardé, mais aussi repris. Enfin, en tout, c'est la main de Dieu qui a été active dans la vie de David, parce que Dieu pourra rendre le témoignage que j'ai trouvé en David, le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Et puis, Salomon, après que Dieu lui ait fait, cette demande, demande ce que tu veux que je te donne, il va dire que tu as traité avec une grande bienveillance David, mon père, et là, il va maintenant entrer dans ce qui va le concerner lui. Alors, il va dire à Dieu, donne-moi de l'intelligence pour pouvoir juger ton peuple. Car qui pourrait juger ce peuple si grand, qui ne peut ni être chiffré, ni dénombré, ni être compté? Alors, vous savez ce qui s'est passé après? La Bible nous dit que cette demande de Salomon plut à l'Éternel. C'est beau. Et après, la Bible nous dit que Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu ne demandes pas de richesse, de gloire pour toi, ni même tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, parce qu'un royaume sans ennemis, c'est la paix assurée. Mais David et Salomon n'a pas demandé ça. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, alors moi je vais te donner de l'intelligence, ailleurs dans l'autre partie, dans les chroniques, de la sagesse, et de telle manière qu'il n'y aura jamais eu aucun roi qui soit semblable à toi, et qu'il n'y aura jamais plus de roi semblable à toi. Ça veut dire que Dieu a mis une touche particulière pour pouvoir bénir la vie de Salomon. Et lorsqu'il a commencé à entrer dans le développement du plan de Dieu, c'est lui qui va bâtir le temple de Jérusalem. Et vous savez comme moi que le temple de Jérusalem, il a fallu que Dieu lui donne des instruments particuliers, des hommes exercés, qui avaient des compétences dans la construction. Il y a un qui s'appelait Hiram, et un autre, je ne sais pas trop le nom, mais quoi qu'il en soit, Dieu lui a donné des éléments pour pouvoir accomplir ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alors quand Dieu demande quelque chose, il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, mais il nous fournit aussi des matériaux, des capacités, des gens compétents, pour que son œuvre, l'œuvre qu'il veut bâtir, puisse s'accomplir. Et après un moment donné, lorsque il a fini de construire le temple de l'Éternel, il va bâtir maintenant sa maison, son palais. Et en bâtissant son palais, la Bible nous dit que Salomon va fortifier Milo. Et c'est ce qui est important pour nous, autant Jérusalem était une ville fortifiée avec des tours, des portes, avec des verrous et des barres. La ville était fortifiée et il y avait des tours. Pourquoi? Car sur la tour étaient postées des sentinelles. La sentinelle postée sur la tour avait trois responsabilités que je qualifierais de fondamentales. La première responsabilité de la sentinelle, c'était de veiller à l'arrivée d'ennemis éventuels. Et en veillant sur l'arrivée d'ennemis éventuels, sa deuxième responsabilité consistait à avertir le camp, ceux qui étaient à l'intérieur, pour qu'ils se mettent en ordre de bataille. Mais comment pourrait-il veiller sur l'arrivée d'ennemis éventuels? Comment pourrait-il informer le camp de l'arrivée d'ennemis éventuels si d'abord il n'avait pas compris qu'il fallait qu'il veille sur lui-même? Mais ce matin, frères et sœurs en Christ, nous sommes sur le terrain où il nous a rappelé que si l'Éternel ne bâtit la maison, bâtir une maison, Eh bien, il faut un engagement. Parce que quand je passe auprès d'un chantier, je vois tout un tas d'ouvriers, ils sont actifs. Et ce qui est merveilleux, c'est que chaque ouvrier, il sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas un qui dit à celui-là, mets-toi de côté, je prends ta place. Non, chacun est à une place définie, faisant un travail particulier, parce que tous ont un même but, une même vision, la terminaison de la maison pour que les occupants puissent s'installer et s'y retrouver bien. C'est pas lorsqu'on a fini de construire la maison, eh bien on va constater, eh bien on a oublié de mettre la salle de bain. Non, tout est préparé. Et chemin faisant, chaque chose est à sa place et il y a une place pour chaque chose. L'architecte a bien construit le plan. Frères et sœurs en Christ, quand c'est Dieu qui construit, chaque chose est à sa place. Ce matin, Dieu a résolu de construire ta vie comme son enfant. Alors, c'est lui qui a la capacité de mettre les ingrédients nécessaires. Et vous savez ce qu'il a fait pour cela? Il a mis en toi le Saint-Esprit. Et vous savez, les attributions du Saint-Esprit sont particulières dans le sens où Jésus nous dit, quand le Consolateur viendra, voici ce qu'il fera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et puis, vous savez, le dernier attribut dans la liste de ce que Jésus expose, il dit, le Saint-Esprit se glorifiera. Oh, vous ne réagissez même pas. Oh, enfin, je comprends, c'est tellement absurde ce que je vous dis, que je brise votre élan. Mais vous devriez réagir. Non, pasteur gentil, oh là là, au secours. Non, le Saint-Esprit me glorifiera. Est-ce que vous dites amen? Oui, Jésus dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Vous avez dit que plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus je glorifie Jésus-Christ. Plus je glorifie. Et je comprends pourquoi le Saint-Esprit, dans la bouche de l'apôtre Paul, va un peu rafraîchir nos mémoires dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est un rappel, un rafraîchissement de mémoire, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, qui est en vous, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Pourquoi? Vous avez été racheté à un grand prix. Alors, à cause de cela, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ça explique ce que je viens de vous dire. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit est actif en moi, plus il m'amènera à glorifier Dieu. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, dans la manière que Dieu, eh bien, agit pour pouvoir construire nos vies chrétiennes, il met dans nos cœurs et dans nos vies des éléments qui vont être utilisé pour sa gloire, pour glorifier son nom, pour élever sa majesté, pour célébrer par nos louanges sa grandeur. Parce que le but de la louange a pour but de glorifier Dieu, de dire ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et plus Dieu entend de la bouche de son enfant des louanges lui donnant la gloire, plus le Saint-Esprit est actif, plus le Saint-Esprit descend et me remplit, et plus je suis rempli, plus je glorifie Jésus. Et finalement, nous sommes un peu sur ce que nous pourrions définir comme étant le cycle de l'eau. Vous connaissez le cycle de l'eau? Le cycle de l'eau. Je ne parle pas de l'eau de la rivière, je parle de l'eau biblique. Je dis que la pluie du ciel sort d'en haut, il descend, il féconde la terre, il arrose les plantes, mais après, il retourne par l'évaporation, il remonte vers le ciel. Le cycle de l'eau. Mais la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Et ce que Dieu nous dit ce matin, c'est pour éveiller notre esprit, notre cœur, à ce que sa parole dit, pour que cela produise son effet en nous. Et même quand vous serez chez vous, devant sa présence, le Saint-Esprit vous rappellera ce que vous entendez ce matin, et vous allez faire monter vers Dieu des louanges et des nations de grâce, et vous lui direz, merci Seigneur de ce que toi tu as résolu de bâtir ma vie comme ton enfant. Et si l'Éternel le garde la ville, gardez la ville, comme je viens de vous le dire, Jérusalem était une ville fortifiée. Et dans l'idée de garder la ville, j'ai noté que Dieu garde ce qu'il bâtit, et ce qu'il bâtit, il le garde. Et j'avais pris soin d'expliquer au bien-aimé que cette déclaration de Salomon, si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez qu'il y a une différence qui est mentionnée entre ceux qui bâtissent la maison. Ils sont plusieurs, ceux qui la bâtissent. Travaillent en vain. Mais en ce qui concerne garder, celui qui la garde veille en vain. Ça veut dire que nous sommes sur le terrain de l'individualité. Et beaucoup de personnes construisent leur vie sans Dieu. Et ils terminent malheureusement leur vie dans de grandes souffrances. Et même s'ils ont eu des richesses, de la gloire du côté des hommes, ils terminent dans la misère. Misère sur le plan spirituel. Leur âme est dans les ténèbres, dans l'égarement. Ils n'ont pas d'espérance. Alors le séjour des morts leur ouvre grand sa gueule et les attend. Oui, la Bible nous dit que ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant l'Éternel. Ce matin, nous ne sommes pas élevés devant les hommes. Au contraire, Dieu a choisi les choses viles pour confondre les choses qui se pensent être, les choses faibles pour confondre les fortes. Ce qu'on méprise, Dieu les a choisis. Vous et moi ce matin, pour que nous soyons au rang de ceux qui servent à le glorifier ce matin. Nous n'avons pas de gloire à tirer ni les uns des autres, ni pour nous-mêmes. Mais nous savons qui nous sommes, ce que Dieu a fait de nous, alors le Saint-Esprit nous conduit à le glorifier. Parce que le commun des mortels, même s'il est élevé en dignité parmi les hommes, il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans le cadre de ce que je partage avec vous ce matin, mes bien-aimés, nous sommes sur le terrain où Dieu nous montre que finalement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes assurés de sa protection. Ce n'est pas simplement le fait le jour où nous sommes devenus ses enfants. Certes, cela a pris effet ce jour-là. Mais Dieu avait prévu, comme j'expliquais ça la semaine dernière, nous mettant au rang de ceux qui sont sous sa protection. Depuis le jour où il a choisi notre père Abraham, dans la foi. Dès qu'il le choisit, Dieu lui dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et Dieu élargit le champ, toutes les nations de la terre seront bénies au travers de ta postérité. Postérité d'Abraham, Isaac. Isaac, type de Jésus-Christ. Et puis, lorsqu'il arrive dans Genèse 15, Dieu va élever un peu le niveau pour lui dire, Abraham, je suis ton bouclier. Et Dieu rajoute, et ta récompense ne sera pas grande, mais elle sera très grande. Alléluia! Ta récompense sera très grande. Alors quand Abraham reçoit la promesse de Dieu d'être son bouclier, il porte déjà en lui les alliances, n'est-ce pas? Entre autres, il porte déjà en lui l'alliance dans laquelle Dieu s'est engagé à bénir toutes les nations de la terre au travers de sa postérité. Et puis, lorsque nous arrivons sur le terrain de Genèse 22, où nous voyons que Dieu lui demande l'effet de la promesse, donc sacrifier Isaac, lorsque il a fait ce que Dieu lui a demandé, il lève sa main pour voir égorger l'enfant, l'ange de l'Éternel l'appelle des cieux et dit « Abraham, Abraham, deux fois, arrête, parce que maintenant je sais que tu crains Dieu. Alors puisque tu n'as pas hésité à me donner ton fils, ton unique, après, je te bénirai ? Mais avant de dire je te bénirai, dites-moi je te le jure. Dites-moi je te le jure. Parce que Dieu est intervenu avec un serment. Je te le jure, parole de l'Éternel, je te bénirai. Là, nous sommes sur le bon terrain. Alors, est-ce que Dieu a besoin de faire des serments? Dieu n'a pas besoin de faire de serments. Plus tard, le Saint-Esprit dans l'Épître aux Hébreux nous rappellera, entre autres, que le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Mais c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, qui, vous, moi, nous, voulait montrer quoi? Que la résolution qu'il avait prise était immuable. L'immuabilité de la résolution, il intervient par un serment afin que de deux choses l'une, il est possible que je mente. Alors nous trouvions un puissant encouragement ce matin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est constamment là pour nous encourager. Au travers de sa parole, il nous encourage. Un puissant encouragement. Les Hébreux, leur seul refuge, c'était d'accepter ce qui leur était proposé. Mais nous, on n'accepte pas ce qui nous a été proposé, parce que tout nous a été déjà donné pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, lorsqu'un enfant de Dieu passe par un moment difficile, moi, en tant que pasteur, je lui fais jamais des sermons. Je me garderai bien de mépriser un seul de ces petits qui croient en Jésus-Christ. Jamais. Il est tombé bien bas, alors je descends de ma grandeur, si tant est que je peux prendre cette expression-là, pour me mettre à son niveau. Mais jamais je vais commencer à le regarder de haut et le mépriser. Jamais. C'est pas ça à quoi Jésus m'a appelé. Ce n'est pas l'attitude du berger. Le berger ne méprise jamais les brebis, ni les regarde de loin, ni de haut. Mais il se met toujours à leur niveau. Pourquoi? Parce que Dieu se met toujours à notre niveau. Et il prend la situation en main, et jamais, comme le fait Satan, Dieu nous donne une parole pour nous décourager, pour nous briser, pour nous freiner dans notre élan. Mais il vient toujours à notre secours. Et ce Dieu grand ce matin, notre Père, il est au milieu de nous. Alléluia. Il est là pour toi, pour moi, pour nous, ses enfants. Et c'est pourquoi nous voulons lui faire une pleine confiance. Il a commencé de bâtir, et nous savons que cette œuvre qu'il a commencée dans chacune de nos vies, il la poursuivra. Et puis, dans le cadre, mes bien-aimés, toujours, des conditionnels divins, dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 11, nous voyons Jésus qui s'adresse en sa qualité de fils de l'homme, il s'adresse particulièrement à des Juifs. Et dans ce qu'il leur dit, en rapport avec la prière, il prend soin d'ouvrir cette particularité. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, ça veut dire qu'il ouvre une porte, une possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Et s'il parle ainsi, c'est pour différencier ce qui était en rapport avec la loi et ce qui était prévu dans l'action de Dieu lorsque la grâce sera promulguée. Il parle en sa qualité de fils de l'homme à des Juifs, mais je ne peux dissocier sa qualité de fils de l'homme de ce qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même. Vous me suivez toujours? Oui, pasteur, on vous suit très bien. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Lequel père, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Nous sommes sur le terrain des extrêmes. Si j'ai un pain, je peux casser un bout, surtout s'il est croustillant, le porter à ma bouche et le manger. Pourquoi? Parce que le pain fait partie de ce qu'on appelle, vous qui avez la connaissance, des aliments complets, avec le lait. Le pain et le lait, ce sont des aliments qu'on appelle complets. Écoutez, je ne l'ai pas inventé, moi je l'ai appris à l'école ça. Je sais, c'est vieux, mais j'ai toujours retenu ça. Le pain et le lait, ce sont des aliments complets, parce qu'ils possèdent des glucides, des lipides. Enfin, je ne vais pas faire une leçon de science, je ne suis pas scientifique. Mais je sais que le pain et le lait, ce sont des aliments complets. N'est-ce pas? Et nous comprenons pourquoi la parole de Dieu nous parle de pain, il nous parle de lait, etc., pour traduire les choses sur le plan spirituel. Mais, je reviens à ce que je vous disais. Ou, quel père, si son fils lui demande du pain, va lui donner une pierre? S'il demande un œuf, va-t-il lui donner un scorpion? Et va-t-il lui donner aussi un serpent? Non, le serpent, le scorpion, ce sont des aliments, des animaux qui sont venimeux parce qu'ils portent en eux la mort. Le pain, on peut le manger, mais la pierre, si j'essaie de le manger, je me casse les dents. Donc ce sont des choses qui sont nocives et nuisibles. Alors si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner à votre enfant qui demande du pain ce qu'il faut, qui demande un œuf, on peut pas donner un scorpion ou un serpent, on lui donne ce qu'il faut, ce qui va lui faire du bien. Alors si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, il faut faire attention à ce que j'entends, ce que j'écoute et ce que je comprends. Je veux dire par là que tout enfant de Dieu, né de nouveau, est habité par le Saint-Esprit. Je ne veux pas prier pour dire à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite déjà en moi. Mais je peux prier pour aspirer à recevoir, comme à la Pentecôte, une expérience nouvelle, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce à quoi tout enfant de Dieu né de nouveau aspire. Et parce qu'il aspire, il demande à Jésus-Christ d'accomplir à son égard ce qui est une promesse. Il ne faut pas que nous soyons, frères et sœurs, au rang de ceux qui faisons les choses n'importe comment. Mais nous voulons les faire avec la connaissance. Car c'est la connaissance qui nous donne l'intelligence. N'est-ce pas? Oui, pasteur gentil. J'ai compris cela. Et puis ailleurs, dans le second volet de ce que Jésus dit, et je regarde la pendule parce que le temps passe tellement vite, dans le second volet de la même tranche, on se retrouve dans Matthieu 7:7. Le Seigneur reprend la même chose en rapport avec la prière, mais lorsqu'il dit « si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il non plus le Saint-Esprit, mais de bonnes choses. De bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc j'ai noté que la prière suppose simplement d'adresser une demande. Or, la demande que j'adresse par la prière stipule aussi la connaissance de celui à qui je m'adresse. N'est-ce pas? Et cette connaissance stipule qu'il y ait par la prière une relation que je définis comme étant la communion. Et une fois que l'ensemble est mis en place, que va-t-il découler puisque j'ai demandé et que je sais que si méchant comme je suis, je sais donner de bonnes choses à mes enfants, à combien plus forte raison mon Père Céleste à qui je demande donnera-t-il autant le Saint-Esprit comme cela a été dit pour les Juifs, et de bonnes choses pour ceux qui sont devenus ses enfants. Alors la prière suppose aussi, après la demande, la communion, que je me place dans l'attente. Oui, dans l'attente. J'attends. Ce matin, tu n'attends pas quelque chose de Dieu que tu lui as demandé? Oui, j'attends, Seigneur. Je m'attends à toi. Et quand vous attendez quelque chose de Dieu, vous êtes comme Jacob, comme Dieu a rappelé ça dans une interprétation hier matin. Je ne te quitterai pas, Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni. Je m'attends, je m'engage, je suis là, j'attends. Et quand j'attends quelque chose, hier matin j'ai fait rigoler l'auditoire, et ce matin je vais vous donner ce témoignage en rapport avec l'attente. Vous allez tout savoir ce matin. Tout dans le rapport de ce que je vous dis, parce que je sais qu'il y a quelque chose en nous qu'on appelle la curiosité, qui cherche toujours à être satisfaite. Mais c'est pas le but. Je me rappelle quand j'étais fiancé. Oh! Vous savez ce que je fais? Je regarde dans le rétroviseur de ma vie. Ah, ça c'est loin, ça. C'est loin, mais je l'ai vécu. Quand j'étais fiancé, oh, j'avais 20 ans, j'étais beau. J'étais jeune, j'étais mince. Ah, où sont mes 20 ans? Mais, tout ce que vous pouvez me dire, c'était bien. Mais je ne connaissais pas Jésus. Ah, Mais aujourd'hui, je le connais, donc je peux prendre cette image-là pour vous placer sur le terrain de l'attente. Et chez nous, en Martinique, à la campagne, nous étions dans un petit lieu. Oh, j'étais heureux dans ma jeunesse, dans mon enfance, mais c'était à la campagne, avec tout ce qui est autour, des senteurs, des valeurs, de la verdure, tout ce qui forge votre personnalité, votre caractère, et qui fait qu'il y a toujours en vous un désir de vous retrouver dans les endroits où, psychologiquement, personnellement, vous avez été marqué. Et oui, lorsqu'on est à la campagne, on a des valeurs qui sont enfouies en vous. Et cela se passe, s'appelle, ça fait partie de la culture. Bon, bref. Alors, je me rappelle que quand j'étais fiancé, chez nous, il y avait une grande allée, une grande cour en terre, mais sous forme d'une allée. C'est là où on jouait aux bières, mes frères, etc. Tout ce qui... Alors, quand ma fiancée me disait, dimanche après-midi, je monte te voir. Eh bien, je viens. Alors, l'après-midi, vous savez ce que je faisais? Une fois qu'on a mangé, eh bien, moi, je prenais mon balai, je balayais l'allée parce que, il fallait pas que ma fiancée trouve l'allée sale. Et quand maman me voyait en train de balayer, elle disait, oh, Claude attend quelqu'un. Les années ont passé, et puis, celle qui était ma fiancée est devenue mon épouse. Nous avons eu des enfants, on a construit, par la grâce que Dieu nous a fait, une vie. Mais, ceci pour vous dire, frères et sœurs en Christ, que pourquoi j'avais cette attitude? Parce que mon cœur était épris. Mon cœur était amoureux. J'aimais ma fiancée. Et si j'aime Jésus, une fois que j'ai parlé à Dieu dans la prière, eh bien je m'attends, j'attends. J'attends et je regarde constamment vers lui, m'attendant à lui. Et même si la bénédiction tarde, comme il a été dit dans l'Écriture, si la promesse tarde, attends-la. Quand on attend, il y a une différence entre le méchant et le juste. La Bible nous dit que l'espérance des méchants périt. C'est Salomon qui le dit, l'auteur du psaume 127. Mais l'attente des justes n'est que joie. Alors je me suis dit, pourquoi Seigneur tu dis que l'attente des justes n'est que joie? Alors Dieu m'a répondu, Claude, parce que le juste attend toujours avec espérance. Attends-tu avec espérance ce matin? Alors, prions le Seigneur.